Le vrai true crime avec les vrais dossiers. Bienvenue sur Mémoire d'archives. L'affaire Blanche Garneau, chapitre 19. Une preuve suffisante? Point d'interrogation. Et oui, j'ai choisi ce titre avec une question, dans le fond. Est-ce que la preuve était suffisante? Pourquoi ce titre? On sait que le procès est commencé. Maintenant, c'est la poursuite du procès, donc avec les témoins appelés par la couronne. Mais ce titre, c'est simplement parce que c'est la question qui m'est venue en lisant les premiers témoignages, donc ceux de la couronne, parce qu'au fur et à mesure qu'on je ne veux pas vous mettre la réponse dans le cerveau, décider à votre place, mais c'est une question, hein, je veux pas vous donner la réponse, mais c'est la question qui nous vient parce que, à force d'écouter des témoignages, c'est ça que je me disais. On réécoute, c'est sûr qu'il y a un côté déjà vu à tout ça, là, parce que c'est des témoins qu'on connaît déjà pour avoir témoigné devant le coroner et tout ça. Mais c'est beau de reconstituer un peu, en tout cas le plus fidèlement possible, le meurtre de Blanche Garneau. Mais quels sont les éléments vraiment qui relient Binette et Palmer à ce meurtre-là? Et plus on avance, plus on se demande, ben, est-ce qu'il y en a, sauf les fameux aveux de Binette? Je veux dire, c'est ce qu'on va voir en tout cas ensemble. On va poursuivre les détails des différents témoins. Et vous allez voir, la question va vous revenir certainement, à moins que vous l'ayez déjà eu à l'esprit, parce que c'est vraiment pas évident de cibler Binette et Palmer dans tout ça. Donc, vendredi, le 28 octobre 1921, le procès se poursuivait avec le témoin Joseph Plamondon, qui travaillait comme garde-moteur. Et oui, c'est comme ça qu'on appelait ça, quelqu'un qui s'occupait d'un tramway électrique à cette époque-là. Et on se souviendra que lui avait croisé, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il disait avoir croisé au soir du 22 juillet 1920 celle qu'il croyait être Blanche Garneau avec deux hommes. Oui, en effet, c'est ça qui est ça. Et on continue, on lui fait répéter cette histoire-là. Et juste pour revenir dans quelques détails, il dit que la fille, donc celle qu'il croit, lui, être Blanche Garneau, il croit la reconnaître sur la même photo qui lui avait été présentée, donc qui est déposée sous la cote P4 lors du procès. Et il croit que c'est elle, et à un moment donné, il dit que même leurs regards se sont croisés. Et il décrit même son apparence, là, ça semble coller avec la vérité. Et il y avait les deux hommes avec elle, qu'il décrit un peu de façon coup-ci, coup-ça, là. Bon, un habillé en noir ou en bleu, peut-être brun, tu sais, c'est quand même assez c'est très, très, très précis, hein, c'est fou. Et l'autre coiffé d'un chapeau mou. Bon, tout ça, on va passer vite là-dessus. Mais ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, il y a un avocat qui lui demande, ben, oui, c'est beau tout ça, mais Blanche était peut-être accompagnée de deux hommes, mais est-ce qu'elle vous paraissait en détresse? Eh bien, Plamondon est obligé de répondre non. Elle semblait pas en danger avec ces deux hommes-là. Donc, ça écarte un peu, encore une fois, une possibilité. En tout cas, c'est une autre piste qui finit en queue de poisson. Et même, Plamondon ne s'avance pas. Donc, il n'identifie pas Binette ni Palmer comme étant les deux hommes qui sont là. Alors, il n'y a pas d'identification formelle. Ensuite, on fait revenir rapidement Edesme Boucher dans la boîte des témoins. Principalement pour déposer en preuve trois lettres. Et puis, on lui fait authentifier aussi... on lui pose pas nécessairement de questions, là, mais on en profite pour lui faire authentifier le drap blanc qui recouvrait le corps de Blanche Garneau. Et oui, elle dit qu'effectivement, c'est ce drap-là que Blanche avait sous le bras le soir de sa disparition. Ensuite, il y a le petit Albert Latulippe, le jeune garçon, un des jeunes garçons là, qui a été parmi les premiers à voir le cadavre au soir du 28 juillet 1920. Donc, il répète essentiellement ce qu'on sait déjà de sa participation dans l'histoire. Et ensuite, on fait appel à Joseph Mallard, le gardien de 60 ans, gardien du parc, qui il disait connaître Blanche, mais seulement de vue. C'est son nom, il l'a appris, lui, après le fameux drame. Donc, quand ça a apparu dans les journaux, c'est là qu'il a connu, qu'il a fini par savoir comment il s'appelait. Et il décrit, la scène qu'il a vue, la scène de crime, parce que, comme vous le savez, ça n'a pas été immortalisé sur photo, et encore très peu sur mémoire humaine, parce qu'on n'a pas protégé la scène de crime, c'était pas fort, ben, en tout cas. Mais c'est là d'où l'importance, on lui demande. Et puis, avec le langage du temps, hein, c'est assez évident, M. Mallard répond « J'ai vu une créature ». Ben oui, pour les plus jeunes, une créature, ben, c'était la façon de dire que c'était une femme. Il dit qu'elle était étendue et un chapeau, il y avait un chapeau à côté d'elle. Mais il dit qu'il n'a pas nécessairement vu sa figure, par contre. Ensuite, aussi, peut-être un détail assez, quand même assez important pour nous figurer un peu où se situe la scène de crime. Il dira, lui en tout cas, s'il faut se fier à M. Mallard, évidemment, que la victime, quand on l'a trouvée, elle gisait à une quinzaine de pieds de la voie ferrée et à une vingtaine de pieds de la rivière Saint-Charles. Donc, dans les broussailles entre les deux, ça nous donne une distance à peu près une quinzaine de... Si on transfère ça, bon, tout ça, ça fait à peu près une quarantaine de pieds entre la voie ferrée et la rivière Saint-Charles. Donc voilà, c'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Donc j'imagine que les broussailles étaient assez denses pour que, par exemple, M. Baribault ne la voie pas quand il l'a recherchée. Et c'est pas rare, mais c'est pas nécessairement courant non plus que durant les procès criminels, procès pour homicide, on sente les sentiments vraiment des témoins, mais ça arrive, hein? Bon, ça arrive qu'on peut décoder, qu'on peut analyser leurs sentiments et tout ça, et on sent à un moment donné que l'affaire Blanche-Garneau, ça a vraiment été intense, et par la réponse de Mallard qui dit ceci, je pense que ça vaut la peine de le dire, « Je ne peux pas vous donner plus certain parce que... » Il répondait à une question pour un détail. Là, « Parce que je vous dis bien franchement, j'étais pas mal fatigué moi-même par cette affaire-là. » Et l'avocat lui répond avec un minimum de compréhension. « Vous êtes comme tout le monde. On fait notre possible. » Alors voilà. Ensuite, on a appelé Joseph Boulanger, le garçon de 15 ans qui avait été le premier à voir le cadavre. Donc, c'est lui qui avait trouvé le portefeuille et tout ça. Et que, bon, est-ce qu'il a pris de l'argent? T'sais, on s'est posé la question à un moment donné. Qu'est-ce qu'il disait qu'il avait jeté aussi des photos, là, mais que les photos sur plaque de cuivre étaient effacées. Donc, ça n'aurait pas eu une grande valeur de toute façon. Mais ça aurait été quand même intéressant. Peut-être qu'on aurait pu les récupérer d'une quelconque façon avec un truc de chimie ou je sais pas trop quoi aujourd'hui. Mais bon, bref. Mais au moins, ce qui est important, c'est qu'il va confirmer le piétinement dans l'herbe au point où lui, il va parler d'un chemin. Donc, il disait qu'il y avait un chemin déjà de tracé là, entre la voie ferrée et le lieu de la scène de crime. Et on lui pose même la question, et ce tracé où les arbrisseaux étaient abattus était entre l'endroit où Blanche-Garneau se trouvait et la rivière Saint-Charles? Oui. Tu connais cet endroit-là comme il faut? Oui. Tu y es allé souvent te baigner et jouer là? Non, j'y ai été rien qu'une fois par rapport que le bain était barré. Il y a l'avocat Létard Roy qui, à ce moment-là, voulait démontrer au jury que la seule façon d'avoir apporté le cadavre à cet endroit, c'était de l'avoir transporté depuis la rivière Saint-Charles. Mais pourquoi parler de transporter un cadavre? Tu sais, je vous l'ai déjà dit, il n'y a aucune preuve, aucun lien sérieux comme quoi qu'il a été transporté, qu'il a été déplacé. Donc, si on parle de transport, la meilleure façon que le corps se soit retrouvé là, c'est elle-même, Blanche Garneau, qui s'est transportée là parce qu'elle passait par là. Bon, c'est tout, hein? Mais elle passait par là, elle a été assassinée sur place, donc elle était déjà là, pas besoin de transport. Alors, le transport, pour ma part, je vous parle déjà une de mes conclusions, mais on oublie ça. Ça tient pas la route, mais c'est sûr que les avocats de la défense, de l'autre côté, je les blâme pas, parce qu'ils ont eu leur rôle à jouer, mais des fois, tu sais, sur certains détails, ça peut déborder, ça peut dépasser les bornes, et ça, c'était pas logique, donc ça tenait à rien. Et on a profité aussi, le jeune garçon, ce qui est important de dire, c'est qu'il a ramené le portefeuille qu'il avait trouvé. Et pour une fois, je pense que c'est la première fois dans l'histoire, on l'a authentifié comme étant vraiment, c'était le vrai portefeuille de Blanche Garneau. Et pourquoi on le sait? Ben parce que Edesme Boucher l'a reconnu. Elle était dans la salle d'audience encore, donc à écouter les témoignages. Et on lui a demandé d'authentifier le portefeuille. Et effectivement, elle a dit que oui, c'était celui de Blanche. Et comme on l'avait déjà dit, mais ça fait quand même un certain temps, c'était dans les premiers chapitres, évidemment, ben, la clé dans le portefeuille était plus là. Et d'ailleurs, on ne l'a jamais retrouvée. Ensuite, on a appelé Ulrich Moisan, le fameux entrepreneur en pompe funèbre qui a vu lui aussi la scène de crime. Donc, son témoignage est important. D'autant plus qu'il est habitué d'en voir, donc la froideur peut-être qu'il a, donc le recul qu'il a par rapport à ça. Donc, c'est sûr qu'il n'a pas paniqué, lui, en voyant le cadavre là. Donc, ça ne l'a pas empêché de voir des détails, comme certains autres témoins, par exemple. Donc, c'est pour ça que c'est important. Et il estime la distance, lui, entre 25 et 30 pieds à peu près à partir des rails pour descendre jusqu'au corps. Donc, ça correspond un peu avec ce qu'on a dit un peu plus tôt. Il a parlé, lui aussi, d'un chemin tracé. Donc, il y avait déjà le feuillage était déjà piétiné à cet endroit-là. Mais d'un autre côté, il a apporté un point quand même assez important auquel, des fois, on ne pense pas tout le temps. Il a dit que la noirceur était quand même assez installée à ce moment-là, que ça ne les a pas aidés à examiner les lieux. Donc, si on avait fait appel à des lanternes, par exemple, ou si on avait protégé la scène de crime pour attendre jusqu'au lendemain matin, ben peut-être que ça aurait été un peu mieux pour observer la scène. Mais l'endroit précis où on a trouvé le corps, lui, il a parlé d'un endroit caché. Donc, c'était assez caché. Ça colle, dans le fond, avec la réalité, parce que imaginez un violeur qui veut s'en prendre à sa victime et qui l'entraîne en plein champ aux yeux de tout le monde, ben, ça colle pas. Il va plutôt chercher à se cacher. Dans mon livre, je laisse beaucoup de place au témoignage de Moisan parce que il est celui, dans le fond, qui est le plus précis sur la scène de crime, tout ce qu'il a vu et tout ça, mais ça revient ici, je vais passer quand même, parce que ça revient à tout ce qu'on a dit déjà, donc la jambe repliée, la position des vêtements, la fameuse présence du drap blanc. Donc, bref, là, ça ne nous apportera pas grand-chose, parce que ce qui est important de connaître, comme je l'ai dit en début d'épisode, ben, c'est de s'en aller tranquillement à savoir, ben, c'est quoi les preuves? Quelles sont les preuves qui peuvent nous amener à cibler Binette et Palmer? Ben, c'est ce qu'on va voir. Et tranquillement, pas vite, oui, ben, on arrive finalement à quelque chose qui ressemble à l'histoire de Binette et de Palmer. Donc, on fait appeler le jeune avocat qui travaillait en Ontario, Jean-Émile Bédard, parce que c'est avec lui, dans le fond, que ça avait commencé. Vous vous souviendrez qu'il y avait un certain Louis Dubé qui était venu le voir pour commencer à lui raconter l'histoire. Donc, c'est lui qui fait l'introduction un peu de cette histoire-là. Et voilà, là enfin on commence à arriver à quelque chose. Et finalement, justement, bien, on arrive avec Louis Dubé, un ex-détenu de 37 ans qui habitait maintenant à Cochrane. Il avait quitté le Fort William à la mi-décembre 1920 pour se diriger vers le bureau de Maître Bédard, comme on le sait, tout ça, pour raconter son histoire. Donc, on en arrive enfin à savoir essayer de. Surtout si l'enquête, là, de ce qu'on n'a pas su, finalement, encore, Est-ce que les résultats de l'enquête vont accabler de plus en plus Binette ou Palmer ou les deux? Alors, selon Dubé, ben, ce qu'il a vécu quand même avec lui en prison, donc comme co-détenu, lui, il commence par dire que Binette lui avait parlé de l'affaire Blanche-Garneau quand même plusieurs fois. Donc, il n'en faisait pas une obsession, mais presque, là. Et la dernière journée qu'il est parti, je cite les paroles de M. Dubé, « Il m'a tout conté l'histoire, les troubles qu'il avait eus avec sa femme et tout ça. » Donc, c'est quoi ça, les troubles qu'il avait eus avec sa femme et tout ça? Ah! Malheureusement, oui, je vous le dis encore une fois, vous allez finir par frustrer. Ben, il n'y a personne qui a posé la question pour savoir c'était quoi ces troubles-là avec sa femme. Ben, peut-être que Dubé ne savait pas, mais il aurait quand même fallu lui demander. C'est assez intéressant, hein? Mais bon, finalement, ça ne le sera pas parce qu'on ne le saura jamais. Et même que le nom de sa femme n'apparaît nulle part, mais mon œil de détective privé s'est mis en branle quand j'ai fait mes recherches. Et moi, j'ai trouvé que le nom de la femme, on y reviendra évidemment à la fin, là, que la femme de Binette s'appelait Églantine Doucette et que Binette l'avait épousée à Montréal en 1917. Mais... c'est juste une petite parenthèse. On va y revenir au chapitre 36. Bon, en revenant sur la fameuse chicane ou trouble, là, il finit par en dire un petit peu quand même qu'il avait fini par être arrêté à Montréal et qu'il avait écopé de 6 mois à Bordeaux. C'est probablement là qu'on en déduit qu'il avait connu Palmer, en tout cas comme Binette l'avait dit lui-même plus tard. Et ensuite, à sa sortie, ben, il avait décidé de descendre vers Québec, où il avait travaillé pour la Brown Corporation, d'après ce qu'il avait dit à Dubé, évidemment. Donc, tout ça finit par corroborer un peu les aveux de Binette qu'on a entendus un peu plus tôt. Du moins, bon, à propos de la fameuse Brown Corporation qui est installée à Saint-Raymond. Voilà, mais dans les détails, à quelle date qu'il avait travaillé là, ça, on les avait pas encore, et Dubé l'avait encore moins. Ben, dans le fond, Dubé, il tient sa version, là, il témoigne, mais au fond, ce témoignage-là, je m'excuse, mais avec l'expérience que j'ai de lire des procès depuis 33 ans, n'aurait pas dû être admis ou aurait dû être objecté par la défense en « s'il vous plaît ». Parce que c'est plein de oui-dire. Il parle à la place de Binette. Ah oui, j'ai entendu ça, il m'a dit ça. Ça devrait pas. Là, dans ce temps-là, il faudrait appeler Binette à la barre. Mais, étant donné que Binette est l'accusé, ben, il a le choix de témoigner ou non. Est-ce qu'il va venir à la barre ou non? Ça, on va le voir. Mais c'est son choix à lui. Mais tant qu'il ne vient pas à la barre, on ne peut pas parler à sa place. On ne peut pas dire... s'il accepte de venir, par exemple, là, on peut le contredire, on peut faire pratiquement ce qu'on veut. Mais là, Dubé témoigne à sa place. Et c'est... je vais vous dire de quoi. Il y a pas mal de oui-dire dans ça. Donc, le oui-dire, déjà en partant, c'est pas supposé d'être admissible en preuve. C'est pas une preuve légale. Et ce qu'il raconte, justement, je répéterai pas tout, mais bon, qu'il était arrivé sa première semaine à Québec à peu près dans la semaine du 22 juillet et tout ça. Bon, ensuite, il avait couché à l'hôtel, bon, ça se ressemble quand même énormément. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que pendant leur incarcération en Ontario, à la ferme industrielle, la fameuse ferme là, qu'on avait décrite un petit peu, ils recevaient la presse de Montréal, OK. Alors, la presse, c'est ce que Dubé dit, Binette semblait la lire assez souvent. Donc, ça revient à la question qu'on s'est déjà posée et qui va nous suivre jusqu'à la fin. Est-ce que Binette aurait pu prendre son histoire à travers les articles de journaux? Hein? Là, je laisse 3 petits points de suspension. Mais c'est possible. C'est peut-être possible. S'il a fait une obsession sur cette histoire-là, puis... un maniaque de faits divers, peut-être que là, il s'est découvert une passion pour le true crime, même si l'expression était inexistante en 1920. Mais là, il s'est peut-être découvert une passion, puis il a appris cette histoire-là presque par cœur, puis tellement qu'il a voulu s'intégrer dans l'histoire comme témoin. Il voyait peut-être tellement la scène à force de lire des articles qu'il a voulu s'intégrer dans ça. Est-ce que c'est possible? Parce que c'est sûr qu'il ne se met pas en scène comme le tueur. N'oublions pas ça. Il se met en scène comme témoin parce qu'il a vu de loin Palmer faire le crime. Bref. Et en contre-interrogatoire, les avocats de la défense, peut-être que vous les aimez pas. Est-ce un préjugé ou pas? Ça se peut. Mais ils ont permis de mettre en lumière un élément quand même assez important qui peut jouer sur la crédibilité du témoin. Et comment ça? Ben parce qu'ils ont demandé à Dubé à un moment donné, puis il y a eu une hésitation à répondre parce que je pense qu'il s'est fait pogner les culottes à terre. À savoir s'il avait demandé la récompense. Hein, quelle récompense, vous allez me dire? Ben, c'est parce qu'à un moment donné, on avait offert une récompense à celui ou celle qui mettrait la police sur la piste des assassins de Blanche Garneau. Alors là, il se met à bafouiller, puis ouais, non, je ne l'ai pas demandé, mais il avait quand même fait allusion à la récompense dans une demande écrite là, qu'il avait faite. Alors, voilà, c'est à vous de juger si ça rend crédible, si ça attaque sa crédibilité comme témoin. Mais au fond, si je regarde ça, avec le recul qu'on a, moi je vois pas dans le témoignage de Dubé, je ne vois pas de raison de douter de lui, parce qu'au fond, il rapportait juste les paroles de Binette. Et Binette a sensiblement dit la même chose par la suite là, dans ses aveux. Donc, ce que je reproche surtout, c'est le fait d'avoir accepté ce témoin-là au procès, parce que tout ce qu'il apportait, ou à peu près, c'était du oui-dire. Donc, voilà, c'est mince, en tout cas, comme témoignage. Ça n'a pas beaucoup de poids, là, disons. Faut pas prendre le témoignage de Dubé. Comme du plomb, si on veut. Faudrait attendre à ce moment-là de voir si toutefois Binette accepte de témoigner, ou même Palmer, on sait pas, ou encore que les aveux de Binette soient acceptés en preuve. Ça aussi, ça va être une autre histoire. Donc, le dernier témoin pour ce chapitre-ci, qu'on va entendre très brièvement, oui, c'est Eugène Sauriol. Le nom vous dit probablement rien parce qu'on l'a à peine effleuré, mais il a été un autre co-détenu de Binette. Donc, principalement, il corrobore le témoignage de Dubé. Il n'apporte pas nécessairement rien de nouveau. Toutefois, il confirme aussi qu'il l'a connu. Là, il le voit dans la salle, donc il peut l'identifier. Il identifie clairement Binette. Mais par contre, lui, il dit l'avoir connu sous le nom de Raoul Legault. Effectivement, c'est un nom d'emprunt qu'on a vu un peu plus tôt qui l'empruntait. Et on va savoir seulement pourquoi il avait choisi ce nom-là à la fin, oui. Parce que on l'explique pas dans le dossier judiciaire. Il semble qu'aucun procureur ne l'ait trouvé. Pourquoi? On a juste marqué alias Legault, c'est tout. Mais je l'ai trouvé dans mes recherches, dans mon enquête documentaire, donc on va vous dire pourquoi plus tard. Donc, Sauriol n'apporte pas vraiment grand-chose. Si ce n'est qu'il a entendu Binette se vanter d'avoir passé une soirée avec la jeune fille, entre guillemets, la jeune que Palmer disait que c'était sa blonde. Donc, il se vantait un peu de... Peut-être certaines versions aussi, il se vantait d'avoir vu le meurtre des fois. Puis d'autres fois, on dirait qu'il se vantait de l'avoir... d'avoir couché avec elle ou de l'avoir violée. Son histoire n'était pas tout le temps rectiligne, comme on dit. Donc, c'était assez variable dans sa tête comme dans les oreilles des autres personnes. Et ce qu'il raconte d'ailleurs, une de ses variantes, c'est que Blanche Garneau, après le viol, serait allée voir Binette pour le traiter de lâche parce qu'il n'était pas intervenu. Mais tout ce que je vous dis, c'est posez-vous la question. Est-ce que c'est logique que Blanche Garneau se soit relevée puis qu'elle ait été invectivée Binette après le viol? Parce que ce qui semble le plus plausible, c'est que immédiatement ou pendant le viol, elle soit morte. Je pense pas qu'elle puisse se relever des morts. Donc, ça termine le chapitre pour aujourd'hui. Le prochain, ben, il reste au fond encore quelques témoins à la couronne, mais étant donné la chronologie des témoins, on essaie de raconter l'histoire le plus fidèlement possible à la chronologie des événements. Donc, l'étape prochaine, ce serait plutôt pour la couronne de faire accepter en preuve les aveux de Binette. Et oui, rien de moins, et ensuite faire entendre les derniers témoins de la couronne. Mais est-ce que ces aveux-là vont être acceptés? Et n'oublions pas que jusqu'à maintenant, en tout cas posez-vous la question de ce que vous avez entendu dans l'épisode d'aujourd'hui, est-ce que les preuves sont suffisantes contre Binette et Palmer? Les preuves qu'on a présentées, je pense, nous donnent une idée de ce qui s'est passé. Bon, OK, Blanche a fait ci, Blanche a fait ça, elle était amie avec Desmé Boucher, blablabla. On a reconstitué les événements, mais est-ce qu'on a vraiment... est-ce que ça permet d'intégrer les deux accusés dans cette histoire-là? Pas jusqu'à maintenant, en tout cas. Vraiment pas. Hein? Je vous ai dit, vous pouvez réfléchir, mais là, je vous donne la réponse. Là. C'est évident. Là. C'est quand même... faut pas niaiser avec l'époque, comme on dit au Québec. Mais c'est ça. C'est jusqu'à maintenant, c'est très mince. Et le seul qui apporte une première version pour dire que Binette serait un des coupables, ben c'est Louis Dubé. Puis c'est quoi le témoignage de Louis Dubé? Ben c'est du oui-dire. Donc là, on est... la couronne espère fort probablement... En tout cas, il devait miser là-dessus à 100%. C'est de faire accepter les aveux de Binette. Parce que là, les aveux de Binette, là, ça devient plus sérieux. Là, il avoue avoir vu ça, si ça, puis d'avoir été sur les lieux au moment où Palmer l'a assassiné, ou l'aurait assassiné. Il faut faire attention à nos temps de verbe et à nos mots, nos choix de mots aussi. Alors, on va voir ça au chapitre... à l'épisode suivant, donc le chapitre 20, qui va s'intituler justement l'admissibilité des aveux.